Donc cette fois-ci, c'est Philippe Ramos qui va prendre la parole sur le productivisme et l'explication du point commun de l'héritage entre le libéralisme et le marxisme. Philippe était un économiste devenu au fil de l'eau et un économiste conscient. Alors Philippe, quoi de mieux pour commencer cette présentation que de démarrer par la définition de notions clés comme voilà, le productivisme et le consumérisme.
Moi, je vais m'arrêter au productivisme. Alors, effectivement, d'abord pour définir ce terme et comment il s'enchaîne dans les autres théories, enfin, les trois grandes théories économiques. Donc, le terme productiviste décrit un système d'organisation de la vie économique où l'objectif est de produire toujours plus de produits, c'est-à-dire de biens et services. Alors, il faut savoir que c'est un terme qui a apparu véritablement avec la révolution industrielle, hein, avec l'idée que le progrès technique était une condition du progrès social. Effectivement, le progrès technique a permis d'accroître la production de façon considérable et les conditions de chacun, de tout à chacun. Et du coup, le système économique s'est organisé en système productiviste dans tous les pays, qu'ils soient occidentaux, donc libéraux et capitalistes plutôt, ou les pays dits communistes. Alors, pour rappel, comme on l'a vu en séance 1, quand on mesure la production, on le mesure avec un indicateur qui est le PIB, et sa variation permet de calculer la croissance économique. Alors, même si le PIB ne calcule pas tout, enfin, ne mesure pas tout, je ne vais pas revenir là-dessus, maximiser la croissance du PIB revient donc in fine à conduire une politique productiviste. Donc, ça se rejoint. Alors, il faut, je tiens quand même à dire qu'il ne faut pas confondre productivisme et productivité. Le productivisme, je viens de définir, la productivité, quant à elle, mesure la production ou la quantité de produits obtenu par unité de facteur de production. Alors, en général, on parle du temps de travail ou du capital. On pourrait le faire aussi avec l'énergie ou la matière. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que ce n'est pas exactement la même chose. L'un est un indicateur de performance du système, la productivité. L'autre est l'objectif du système. Alors, le fait est qu'on confond parfois les deux parce que dans nos économies, l'un va avec l'autre et même s'auto-alimente. La productivité, qui est un facteur clé de la compétitivité, permet de bénéficier d'un avantage parfois pour produire toujours plus de produits. Sauf que, évidemment, quand on en produit toujours plus, il faut en vendre toujours plus. Et donc, c'est là où ça rejoint le consumérisme, parce qu'en réalité, pour en vendre toujours plus, eh bien, on va faire appel à des merveilleux outils que sont le marketing, la publicité, la communication, pour provoquer l'acte d'achat, pour provoquer la frustration, l'acte d'achat, et donc la consommation toujours plus grande de biens et services. Donc, en cela, consumérisme et productivisme sont un peu les deux mêmes faces d'une même réalité, maximiser la croissance économique, en quelque sorte. Les théories économiques, pardon, les trois grandes théories entretiennent avec le productivisme. Il y en a trois grandes, hein, des théories, hein, le libéralisme / capitalisme, le marxisme, et moi je rajoute le keynésianisme, qui est une théorie en soi. Alors je vais en parler rapidement, de chacune d'elles, et après je vais vous expliquer comment le productivisme s'insère dans, et la maximisation de la production, la croissance, donc s'insère dans ces théories. Alors le libéralisme, évidemment, c'est la théorie que l'on connaît. C'est né au milieu du XVIIIe siècle. C'est un Français, François Quesnay, physiocrate, qui l'a presque inventé, j'ai envie de dire, avec d'autres quand même. Et en cela, ce sont les précurseurs du libéralisme. En effet, pour les physiocrates, la production agricole, donc là, il y a une notion de flux, la production agricole fait la richesse des nations. Pour eux, seuls les paysans créent de la valeur. Alors, pour rappel, évidemment, à ce moment-là, on vit dans un monde rural. Hein, et de ce fait, ils prônent la liberté de commerce. Et l'État n'a surtout pas à intervenir dans la sphère économique. Donc ça, c'est vraiment le départ du libéralisme. Alors, suivrons Adam Smith, dont Jade a parlé, avec sa notion de main invisible. Je rappelle, en gros, la main invisible, c'est le fait qu'il existe un processus naturel par lequel la recherche, par chacun de son intérêt personnel, je crois qu'il dit égoïste, concourt à l'intérêt général. Bon. Et puis, il y en a un autre assez connu aussi, qui s'appelle Jean-Baptiste Say, un Français, qui, dans son traité d'économie politique, établit le fait qu'il existe un équilibre spontané de marché. On verra pourquoi j'en parle là, au moment où j'aborderai Keynes. Après, il y aura d'autres libéraux, enfin, dans le camp des libéraux, qu'on appelle les marginalistes, avec des outils raffinés, puis les néolibéraux qui vont critiquer l'intervention de Keynes à nouveau, les monétaristes, etc. etc. Mais donc, les libéraux, c'est toute cette galaxie. Hein. Il faut avoir en tête que ce n'est pas un seul... enfin, comment dire, il y a plusieurs courants, j'ai envie de dire. Alors, deuxième grande théorie, le marxisme, qui apparaît en fait au XIXe siècle, en réaction capitalisme industriel de l'époque, qui accompagne la révolution industrielle. Alors, évidemment, le marxisme, c'est Karl Marx, hein, qui, dans le manifeste du Parti communiste en 1848, puis, avec qui il coécrit avec Engels, puis dans son œuvre maîtresse et inachevée Das Kapital, vient critiquer cette pensée libérale et capitaliste et qui va proposer une autre répartition de la richesse avec un autre ordre social, une autre société. Voilà, donc ça, c'est un bloc. Troisième bloc, le keynésianisme, qui arrive un peu plus tard que les deux derniers, enfin que ceux que je viens de citer, avec John Maynard Keynes, un économiste britannique, qui va lui réfuter l'équilibre de marché spontané, cher à Jean-Baptiste Say dans son ouvrage Théorie générale de l'emploi, etc., etc. Lui, il prône une intervention de l'État dans l'économie pour parvenir justement à l'optimum économique en notion donc à cet équilibre spontané. Alors maintenant, voyons comment chacune de ces théories aborde le productivisme, la production, la croissance. Alors évidemment, je vais commencer par cette fameuse théorie libérale qui influe nos vies. Alors comme je le disais, même si elle évolue au cours de l'histoire, l'objectif, le cœur de la pensée économique libérale reste le même, l'optimum économique et les moyens pour y parvenir également avec la liberté d'entreprendre, la liberté de commercer. Alors encore une fois, cet optimum correspond à la maximisation du profit pour les producteurs ou les entreprises et ceci se fait sous contrainte, des facteurs de production. Alors, quels sont ces facteurs de production? Je l'ai déjà un peu dit, c'est le travail et le capital. Plus exactement, c'est leur coût. Et plus exactement, c'est leur rareté ou leur disponibilité. Et en fait, dans la théorie libérale, ce que l'on va essayer de faire pour parvenir à l'optimum économique, c'est de maximiser la production en tenant compte de ces facteurs de production. Et en aucun cas dans la théorie, mais vraiment à aucun moment dans l'histoire, sauf très 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 récemment, et je vais y venir tout de suite, on ne fait état de la rareté ou de la disponibilité des ressources ou encore de la destruction du vivant. À aucun moment, dans aucune des théories libérales, qu'elles soient monétaristes, néoclassique ou je ne sais quoi, on n'en fait pas. Alors évidemment, il y a des rapports scientifiques qui ont commencé à arriver au cerveau même des économistes les plus libéraux, et il y en a qui essaient de le prendre en compte. Je vais en citer un seul, c'est celui de William Nardos, dont on a déjà parlé, je crois, la séance précédente. Pourquoi je parle de ces travaux, les travaux de William Nardos? C'est parce qu'il a obtenu le prix Nobel d'économie en 2018. Et lui, il va essayer de définir la trajectoire optimale de la croissance du PIB compte tenu de ce que le PIB créer comme dégâts environnementaux. Donc la bonne nouvelle, j'ai envie de dire, c'est que déjà, il reconnaît que le PIB crée des dégâts. Par contre, il va essayer de définir des dégâts optimaux et une croissance optimale en face. Alors, encore une fois, je ne vais pas revenir sur les critiques, on en parlera peut-être, mais juste, donc son modèle s'appelle DICE, pour Dynamic Integrated Model of Climate and Economy. Ce à quoi il aboutit quand même, ses conclusions sont assez, plutôt sans appel, c'est que l'optimum est atteint avec une température de l'ordre de plus 4 degrés par rapport au niveau pré-industriel. On est donc à plus 2,5-3 par rapport à aujourd'hui. Et dans son modèle toujours, le réchauffement climatique de 6 degrés ne détruit que 10% du PIB. Encore une fois, il y a plein de critiques, il y en a plein qui sont largement connues. Je pense que celle qu'on peut vraiment pointer, c'est que les dommages tels qu'il les calcule, ils sont étalés dans le temps, dans le sens où il n'y a pour lui pas de dommages graves ou irréversibles. Il n'y a pas d'effet cliquet ou point de bascule. Je vais vous en citer un, de point de bascule qui est quand même pas mal aussi, c'est les limites physiologiques du corps humain. Dans son scénario à plus 4 degrés, a priori 74% de la population mondiale serait confrontée à des conditions de température et d'humidité mortelles, ou potentiellement mortelles, c'est-à-dire plus de 20 jours par an avec une température de 35 degrés, de température du thermomètre mouillé. Je ne sais pas si vous connaissez cette notion, TW. Et en fait, c'est le fait que l'air est si chaud et si humide que le corps humain n'arrive pas à se réguler. Donc, tout ça pour dire qu'à plus 4 degrés, c'est son optimum. En réalité, à plus 4 degrés, il n'y a plus de PIB, puisqu'il n'y a quasiment plus personne qui est capable de travailler correctement. Et il ne parle même pas de l'épuisement des ressources finies. Donc, tout ça pour dire que quand les meilleurs économistes, puisque le prix Nobel s'intéresse, enfin, libéraux, s'intéressent à ces enjeux environnementaux, ils ont quand même une vue très hors sol, purement comptable, et ne tiennent pas du tout compte des réalités physiques. Maintenant, le marxisme et la théorie marxiste, comment elle intègre, quel est le lien entre la théorie et la production? Il faut resituer, donc, encore une fois, la théorie marxiste qui est née de la révolution industrielle. Donc, elle repose finalement sur quelque chose qui est assez daté. On dit qu'elle a cette théorie a une conception dite matérialiste de l'histoire, et je cite le préambule du manifeste, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de lutte de classe. Donc voilà ce sur quoi il met l'accent dès le début dans le manifeste du Parti communiste. Je cite quelques phrases. « Homme libre et esclave, patricien et plébéen, baron et serf, maître de jurant des compagnons, en un mot oppresseur et imprimé, patati patata. » Donc voilà, ça c'est vraiment son cœur de pensée. Et en fait, quand Marx et les marxistes appréhendent l'économie, ils l'appréhendent en réalité comme une succession de modes de production, de frictions, de rapports sociaux de production. Et en réalité, la conclusion à laquelle il aboutit, c'est que le capitalisme est amené à disparaître de lui-même parce qu'il y a une baisse tendancielle du taux de profit. Il faut bien comprendre que dans l'échelle de l'évolution de la pensée marxiste, ce mode de production va certes disparaître et être remplacé par le mode de production communiste ou socialiste. Enfin, ce sont deux étapes de la société marxiste. Mais qu'à aucun moment, il remet en compte le fait qu'il y ait un objectif de production toujours plus grande. Il est le produit de l'industrialisme, il est le produit de cette croyance que le progrès technique va aboutir à l'abondance. Et il reconnaît même des réussites dans la bourgeoisie capitaliste, hein, je le cite toujours, « soumission à l'homme des forces de la nature, machinisme, application de la chimie à l'industrie, à l'agriculture, navigation à vapeur, chemin de fer, télégraphe électrique, régulation des fleuves, etc. etc. » Qui soupçonnait que de telles forces de production sommeillaient au sein du travail social? Lui, il le resitue au sein du travail social, mais il a vraiment une vision prométhéenne de l'homme. Et en réalité, pour lui, la nature est une ressource limitée et gratuite. Pour lui, elle est marxiste. Elle est au service de l'émancipation de l'homme. Pardon. Et donc, c'est vraiment une vision autrepensantrée qui met l'homme bien au-dessus de tout le reste. Donc, encore une fois, à aucun moment dans ses théories, il ne parle d'autres facteurs de production que le travail et capital. Il parle d'abord de dictature du prolétariat, mais rien qui a à voir avec l'environnement. Alors, ceux qui se sont inspirés des théories marxistes, hein, les pays communistes ou dits communistes, sont en général même allés plus loin dans la dimension productiviste ou industrialiste. Je pense à la Chine, je pense à la Russie. Alors, encore une fois, ce n'est pas des vraies sociétés communistes au sens où Marx l'entendait. Mais il n'empêche, aucun des pays dits communistes n'a traité avec égard les enjeux environnementaux et même sociaux. Et en cela, on peut dire que le marxisme aussi a échoué à penser un autre modèle de société. J'allais dire un autre modèle de croissance, mais justement pas un autre modèle de société. Dernière grande théorie, le keynésianisme. Alors, encore une fois, sa véritable différence avec le libéralisme tient au fait que pour lui, l'optimum économique de plein emploi, de production maximale, suppose une intervention de l'État. Alors, encore une fois, les moyens pour y parvenir ne sont pas les mêmes, mais l'objectif reste le même. Alors, Keynes a quand même largement influencé les décideurs politiques du XXe siècle, hein, c'est un des grands penseurs de l'économie du XXe siècle, que ce soit en Europe et même aux États-Unis, je vais y revenir. Les gens dits de gauche, enfin, on va dire qu'une grande partie des socialistes français sont inspirés des théories keynésiennes, et pas que. Alors, le premier à s'en être inspiré, c'est Roosevelt, le premier en tout cas connu, c'est Roosevelt, qui, dans son New Deal, va vraiment s'inspirer, notamment dans la deuxième phase du New Deal, je vais y revenir, va s'inspirer des pensées keynésiennes. En fait, dans le New Deal, qui est l'époque après la crise de 1929, hein, l'idée c'était de sortir de la Grande Dépression, il y a une première époque, 1933-1936, qui désigne des mesures adoptées en urgence, voilà, dès l'entrée en fonction de Roosevelt. Et puis après, de 1936 à 1939, avant la guerre, il y a beaucoup de mesures qui sont inspirées de la vision de l'économie keynésienne, c'est-à-dire une vision qui prône une politique conjoncturelle de relance pour stimuler l'expansion économique et faire reculer le chômage. C'est vraiment ça, le cœur de pensée keynésien. Alors, cette politique qui doit favoriser la demande, c'est une politique qui passe par des grands travaux, de l'investissement public, une politique de crédit favorable, une politique de redistribution des revenus aussi quand même. Tout ça pour favoriser la consommation, le consumérisme, on pourrait dire maintenant, et qui est encore une fois le pendant du productivisme. Donc on voit bien qu'il y a un lien entre cette politique de relance et encore une fois l'objectif ce besoin anthropique d'arriver à un maximum de production. Et encore une fois, dans la pensée keynésienne, néo-keynésienne, post-keynésienne, tout ce que vous voulez, il n'y a jamais eu d'enjeux environnementaux qui ont influencé les penseurs. Jamais on a parlé d'épuisement des ressources, jamais on a parlé de destruction du vivant. Alors récemment, on a entendu parler, moi j'ai déjà lu quelques articles citant le keynésianisme vert, et quand on creuse un tout petit peu, en fait, il s'agit plus d'une relance par des dépenses écologiques, plus ou moins écologiques, qu'une véritable pensée alternative. Voilà, l'objectif restant toujours un objectif de croissance et de maximisation de la production. Donc on voit bien que, quelles que soient les théories, elles ont du mal à faire autrement que avec la production, la croissance du PIB et le productivisme. Alors évidemment, je pense que si vous êtes là, c'est que vous imaginez qu'on peut imaginer un autre modèle. Voilà, effectivement, il faut imaginer un autre modèle parce que sinon on va dans le mur. Donc évidemment, encore une fois, ce sont des lieux communs que de dire qu'il faut, décroître en flux et en matière et que ça va avoir une influence, comment dirais-je, en termes de PIB. Maintenant, parce qu'en fait, encore une fois, en séance 1, hein, on avait vu l'impossible découplage absolu, global, total, pérenne, rapide, entre la croissance et les émissions de gaz à effet de serre. Ça rejoint une des remarques qui avait été faite juste avant. Donc, qu'on le veuille ou non, il va falloir décroître. Alors après, on peut parler de comment on répartit cette diminution de la richesse, mais il va falloir le faire parce qu'il n'y a pas de découplage, ça n'existe pas dans l'histoire, et même si on va un peu plus loin, si on réfléchit un peu plus loin, ça n'existera pas. Donc il n'y a pas de découplage entre la croissance et les émissions de gaz à effet de serre, entre la croissance et l'épuisement des ressources, entre la croissance et la destruction du vivant. Et encore une fois, ni les libéraux, ni les marxistes, ni les keynésiens n'ont créé de cadre éthique qui pense cette sobriété et cette nécessaire décroissance. Alors, je terminerai rapidement sur le fait qu'à partir du moment où on pense à des croissances, en tout cas, on a une autre pensée, on va dire, qui doit tenir compte des limites planétaires, ben évidemment, il va falloir penser cette répartition des richesses. Mais donc sortir du débat destructeur sur la répartition des fruits de la croissance, je crois que ça a été évoqué juste avant, on appelle effectivement un autre, comment est-ce qu'on répartit les fruits de la décroissance ? Alors, c'est vrai que le débat n'est pas simple et il n'est pas clos. Ça passera certainement, vous le verrez en sens 4 ou 5, par d'autres façons de valoriser. Mais encore une fois, ce qui compte, ce ne sont pas les 2% de croissance, ni même les 2% d'inflation, mais bien les 2 degrés de température, si on veut que le monde de demain soit encore habitable. Voilà.